Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en ce mardi 27 janvier de ce mois de janvier qui n'en finit pas car, comme chacun sait, il comporte 86 jours. J'ai l'impression qu'on a commencé janvier il y a 3 mois et que ce mois ne va jamais finir.
Jamais finir. Et il continue à faire beau, c'est-à-dire quand il fait froid, il pleut et il y a du vent.
Alors, voilà. Et alors, on a décidé aujourd'hui de faire un petit sujet disruptif à cause des marchés pour vous parler de l'IA DeepSeek qui aura sûrement, le temps que cette émission sorte, vécu d'autres jours. Mais hier, donc lundi, on a vu que cette IA qui a été développée en 2 mois pour a priori moins de 10 millions de dollars a été première dans l'Application Store et elle pesait sur le marché hier de lundi. Et en parallèle, on se dit, dans une certaine mesure, pourquoi les États-Unis vont lancer des 500 milliards de dollars dans l'IA quand apparemment ils arrivent à faire beaucoup
alors,
mieux en tout cas.
Disons, ils, c'est qui ? C'est des Chinois.
Des Chinois.
Qui ont mis ça au point pour un peu moins de 10 millions de dollars et ça fait aussi bien que ChatGPT ou je sais pas quoi. Enfin,
oui.
Donc, compte tenu des valorisations qu'avaient atteint les affaires d'intelligence artificielle dans le marché américain, ça fait un peu désordre, si vous voulez. Si vous faites mieux avec 6 millions de dollars qu'un truc qui a coûté des centaines de millions de dollars, vous dites qu'il y en a un qui a dû gaspiller de l'argent dans le tas, quoi. Ce que je veux dire, c'est... Donc, il y a un phénomène qui me fait rire. Je dois dire, c'est... Vous savez, on vous a souvent parlé ici, c'est de la création destructrice. Donc là, les Américains ont fait une création... Les Américains en avaient fait une création dans le domaine.
Oui.
Et ils disaient, si on dépense suffisamment d'argent, on continue à dépenser, on continuera à maîtriser la création destructrice et on sera les rois du monde. Et c'est ça qui me fait poiler, c'est qu'il y a 2 mecs dans une cuisine en Chine qui arrivent et qui foutent en l'air des milliards de dollars. C'est-à-dire que la création destructrice américaine, qui était prodigieuse, est détruite par 2 gars dans une cuisine en Chine.
Alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'on a vu passer sur les réseaux, et tu as dû le voir aussi, le patron chinois d'une boîte...
Oui,
d'une
ça, les 2 gars dans une cuisine, mais c'est rien, quoi.
Oui,
c'est...
mais qui dit qu'en réalité, tu sais qu'il y a des restrictions sur les chips
oui,
Nvidia.
On y viendra, bien sûr.
On y viendra, et il dit, en réalité, officiellement, voilà ce qu'on utilise comme parcelle Nvidia. En réalité, on a utilisé à hauteur de 100 milliards.
Je crois pas.
Ah bah, c'était sur Bluewell, et...
Parce que à ce moment-là, ça n'aurait pas baissé. Et puis, la Chine... Alors, on essaie de retourner en arrière pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. L'intelligence, en septembre, c'était vers 2022, je crois, dans l'année 2022, vous avez ChatGPT qui sort. Je sais pas, ça a été une espèce d'électrochoc dans les marchés. Et d'un seul coup, bah, vous pouviez faire des tas de choses à l'ordinateur. Il se mettait littéralement à penser, quoi. Donc, énorme excitation dans les marchés, et toutes les valeurs qui étaient de près ou de loin reliées à l'intelligence artificielle pètent à la hausse. Un truc comme Nvidia... Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il est en train de chercher les serpents, là. Un truc comme Nvidia triple, montre une capitalisation boursière extraordinaire. Bon. Donc, tout le marché américain, depuis 2 ans et demi, qui a fait beaucoup mieux que les autres marchés depuis 2 ans et demi, était porté... par ces quelques valeurs qui pétaient à la hausse et qui devenaient de plus en plus grosses dans l'indice. Ils ont tiré le Nasdaq et le S&P de façon absolument extraordinaire. Donc vous aviez 7 valeurs qui d'un seul coup ont explosé. Bon. Et on arrive à des niveaux de valorisation, si vous voulez, où quelque chose comme Nvidia se vend à 35 fois ses ventes.
Mais la semaine dernière, enfin dans l'émission de la semaine dernière sur la Chine, je vous disais quand même de faire très attention à Nvidia. Elle a perdu hier 17%, qui était l'équivalent du PIB de l'Espagne.
Oui.
La plus grande perte en une journée depuis que la bourse a été créée.
Et donc,
sur une valeur, mais parce qu'elle était beaucoup trop...
Mais 36 fois les ventes, c'est-à-dire ça n'avait aucun rapport avec la réalité. C'est-à-dire que Nvidia pourrait baisser les 2/3, elle serait encore très chère.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est quand même un...
Il y a un moment, quand il y a une telle décorrélation par rapport au bilan comptable,
c'est les moments tout à fait étonnants dans les bulles où il n'y a plus aucun rapport entre la réalité et le marché. C'est-à-dire où les gens pensent que la valorisation d'une valeur, la valorisation d'une action, c'est sa valeur.
Oui.
Tu vois, que le prix et la valeur sont les mêmes.
Sont corrélés, alors que non.
On le sait très bien, on en a parlé souvent ici. Donc, c'était Microsoft, c'était Nvidia. Et alors, pour faire tourner cette intelligence artificielle, les nouvelles recherches qu'on faisait, on avait besoin d'abord des puces les meilleures, tu sais, qui étaient faites justement par Nvidia.
Et on a fait un sujet sur ça en juin.
En juin. Et on avait besoin aussi d'énormément d'énergie, parce que ça bouffait une énergie, tout ça, c'est bon. Donc, tout ça, tout ce qui était... Et ce qu'avaient fait les Américains, c'est qu'ils avaient dit, comme les Chinois sont très méchants et qu'ils sentent des pieds, vous savez, comme ils ont fait avec les Russes ou tout ça, ils aiment bien que les gens sentent des pieds, les Américains. Et ils avaient dit, on va interdire les exportations de puces de Nvidia en Chine pour les empêcher de se développer dans cet endroit-là.
Ça, c'était en 2018 et c'était au moment de l'arrestation de la directrice financière de Huawei, qui était Meg Wanzhou au Canada. Oui. Et qui avait lancé la guerre commerciale de Donald Trump en guerre technologique.
En guerre technologique. On a dit, puisque nous, on n'est pas très bon à faire les choses, mais on est très bon à les inventer, on va empêcher les gens d'exporter vers la Chine les choses très intelligentes qu'on a faites. Nous, comme ça les retardera dans leur développement. Et puis, ce qu'on semble avoir fait les Chinois, ce qui me fait rigoler quand même, ce qu'on va faire les Chinois, c'est que... Bon, ils n'ont pas eu les toutes meilleures puces, mais ils se sont dit, on va travailler avec des moins bonnes puces et on va mieux programmer. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des trucs intelligents à partir de puces qui étaient moins bonnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, eux, ils faisaient l'intelligence.
Oui, oui.
Ils ont programmé un truc.
Ils ont codé.
Et d'un seul coup, ils font un truc qui est aussi bien que ChatGPT, même mieux, et qui coûte le dixième de ça. Alors,
je sais qu'il y a une grosse question sur les open source ou pas les open source.
Alors, les open source, eux, ils sont open source. Au début, ChatGPT open source, puis ils avaient changé, il y avait eu des grosses bagarres entre Musk et Altman, là, c'était deux personnages. Mais surtout, je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent quelque chose. C'est quand vous avez quelque chose comme ça qui se développe et qui arrive à des valorisations absolument insensées, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Pourquoi les gens s'achètent? D'abord, ça montre ce qui est irrésistible. Mais surtout, c'est qu'il y a la croyance, par ceux qui achètent ça, qu'on a enfin résolu le problème de conserver de la valeur. Je m'explique. C'est-à-dire que ça monte. Et donc, ça veut dire qu'en fin de parcours, que tu as établi un monopole et que tu pouvais avoir traire les gens avec ton monopole sans être emmerdé par la concurrence. C'est ça que les gens achètent. Ils adorent tous les boursiers, etc. Il n'y a rien qu'ils aiment comme un monopole. Ils détestent la concurrence. Et les politiques encore plus. Donc, si tu dis à un politique, vous me filez 500 milliards de dollars et je vais développer un truc, et on sera les rois du pétrole, ça rate toujours, parce qu'il y a toujours un couillon dans une cuisine, qui trouve une façon de casser ce monopole.
Et tant mieux,
et c'est pour ça que le capitalisme marche.
Parce qu'il est disruptif.
Parce qu'il est disloquant, parce qu'il est révolutionnaire. Et le but de tous ces grands corneaux politiciens américains, c'était de créer un monopole de l'intelligence artificielle qui serait la propriété des États-Unis et qui leur permettrait de dominer le monde pour les 100 ans qui viennent. Et bien, pas de peau, il y a trois codeurs en Chine, qui ont trouvé qu'on pouvait faire ça autrement. Donc, le capitalisme, c'est toujours la même chose. T'as un gars qui arrive qui dit, donc il me faut 100 milliards de ceci, 100 milliards de cela. Puis il y a un gars paresseux dans un coin, c'était souvent un Anglais dans le temps, parce qu'on a toujours le paresseux, qui dit, si on faisait ça, ça nous éviterait de... Et ça me rappelle une vieille histoire que j'ai... toujours adoré, c'était... Il y avait une ville aux États-Unis, il y avait une colline, et au sommet de la colline, une énorme roche qui pouvait tomber sur la ville et tout casser, tu vois, c'était donc... Donc il faut venir tous les ingénieurs pour enlever la roche, combien ça va coûter et tout. Du sang et des millions, enfin des trucs absolument pour... Puis un gars qui arrive, qui dit, moi je vous le fais pour 10 000 dollars, si vous voulez, on lui dit, comment tu vas faire? Mais il dit, je vais faire un trou en dessous de la roche et je vais la faire tomber dedans. Tout le monde voulait bouger la roche, et lui, il fait tomber la roche dans le trou, tu vois. C'est exactement ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont fait un truc auquel les autres, grisés par le pognon qui est arrivé, ils ont oublié de chercher la solution simple. Et c'est pour ça que ça marche, le capitalisme, c'est parce que Finalement, s'il y a un monopole qui s'installe, ça fait des marges monstrueuses. Donc si tu trouves une façon de capturer ces marges sans que ça te coûte trop de pognon, toi tu fais du pognon de façon monstrueuse. Donc ça m'amuse énormément. Enfin, ça correspond à tout ce que j'ai pensé philosophiquement. Et alors ça, c'est la première, c'est là une réflexion de nature philosophique. Et maintenant, on va essayer de réfléchir aux influences que ça peut avoir sur les marchés. Enfin, me semble-t-il, quoi. Alors là, ça va être intéressant, mais ça, on peut décliner. Mais là, autant je suis confiant sur le principe philosophique que je viens de développer, autant sur ma capacité à dire ce qui va se passer, j'ai des doutes.
Bah, déjà, tu n'es pas Madame Irma, ça on l'a dit plusieurs fois, mais ce qu'on voulait déjà, c'était attirer l'attention des lecteurs, j'ai envie de dire, sur ce qui vient de se passer, en quoi c'était quand même révolutionnaire et intéressant. Et c'est aussi intéressant pour une autre raison, historiquement, et ça fait très longtemps qu'on en parle chez nous, c'est les préjugés que l'Occident peut avoir aussi sur la Chine. Alors, ça ne remonte pas sur l'Asie en général et sur la Chine en particulier, sur les concurrents asiatiques. On a eu le tsar russe Nicolas II qui pensait que son armée et sa marine parviendraient rapidement avec les Japonais, mais son armée a subi les défaites successives et sa marine a été détruite à Tsushima en 1905.
Oui. C'est-à-dire qu'il avait fait tout le tour de l'Asie parce qu'elle était venue de la Russie comme ça, elle était passée par le... elle avait fait tout le tour. Puis elle était arrivée un peu fatiguée en face du Japon, qui eux étaient en pleine forme parce que c'était juste à côté.
Parce qu'ils s'étaient là où ils étaient.
Et ils ont pris une branlée, la guerre russino-japonaise, ça a été. Russo-japonaise, pardon. C'était en 1905. C'est la première fois que les Occidentaux étaient détruits par des noms, étaient battus par des noms blancs. Voilà. Depuis 200 ans, ça avait fait un grand choc à l'époque. C'était en 1905.
Et alors ensuite, tu as eu Winston Churchill qui a mis les canons de Singapour dans le mauvais sens par rapport aux Japonais.
C'était les Anglais, ils attendaient une attaque par la mer.
Ils attendaient une attaque par la mer, mais tu avais donc les canons. Il a mis les canons de Singapour dans le mauvais sens, et l'armée japonaise a avancé très rapidement dans la péninsule malaise, et il s'est retrouvé.
Il avait les canons qui étaient. Lui, il attendait une. Comme c'était un Anglais, il pensait que ça arriverait en bateau. Ben non, ça arrive à pied.
Et voilà.
C'est comme les Français avec la percée dans les Ardennes là, des Allemands.
Ensuite, on a eu Douglas MacArthur et l'état-major américain qui ont sous-estimé la détermination de leur adversaire lors de la guerre de Corée. L'establishment français, à peu près la même chose avec la guerre d'Indochine. On ne peut pas dire qu'on ait bien estimé...
La guerre d'Indochine, et puis nous, on avait bien raté le coche aussi quand on avait fait la ligne Maginot et qu'ils sont passés ailleurs.
Tu remarqueras que ce n'est pas des Asiatiques.
Non, c'est des
je fais un point sur l'Asie. Le fait qu'on a...
Les Allemands, on les appelait les Huns.
Oui, mais qu'on a des préjugés sur l'Asie en disant « Ah, mais les bananes flambées, elles vont jamais... » Excusez-moi, je dis ça parce que c'est 117. Hein.
C'est un classique de... Ouais, c'est 117.
Les bananes flambées. Il y a Lyndon Baines Johnson et Robert McNamara face au Vietnam et les constructeurs automobiles américains aussi qui tout au long sont toujours manqués des constructeurs japonais jusqu'à ce qu'on voit arriver des Toyota absolument partout, Afrique inclus. La sous-estimation de l'air par l'Est par l'Ouest, c'est une constante assez forte de l'histoire. Et alors si vous voulez lire plus sur ce sujet, vous avez un livre fascinant qui s'appelle East and West de Cyril Northcote Parkinson qui est paru en 1963 et qui reprend ce que les Anglais appellent the prejudice, comme Pride and Prejudice, de l'Ouest sur l'Est.
C'est-à-dire dire que, ils sont pas très complets, et puis surtout qu'ils sont pas inventifs, que nous on est inventifs et tout et tout. Donc il y a tout ça. Et donc ce qui se passe, c'est que la Chine, qu'est-ce qu'on voit ? Ils dominent maintenant l'industrie automobile, toutes les grandes industries de technologie, etc. Ils sont dominants maintenant. En l'espace de 10 ans, ils sont passés à ça. Il y a 10 ans, on pensait qu'ils étaient capables que de faire des t-shirts, et pouf, manque de peau, ils font une centrale nucléaire maintenant, et des systèmes de transport et tout. Et nous, on était tout fiers parce qu'on allait dominer l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas que je me réjouisse que la chouise de qu'on domine pas l'intelligence artificielle, c'est pas ça l'idée, mais c'est l'idée, si vous pensez fondamentalement que vous êtes meilleur que les autres, ça veut dire que vous êtes raciste. Donc on a une espèce, comme tu l'as fort bien dit, une espèce de racisme ambiant vis-à-vis de ces pays-là qui est tout à fait extraordinaire et qui est de moins en moins justifié, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un truc aussi, c'est que la bourse de New York avait une espèce de prime. D'abord, c'est cette valeur incroyable, plus le fait que c'était des valeurs américaines.
Et c'est-à-dire, on en a parlé assez souvent, on payait pour cet exceptionnalisme américain.
Très cher.
Et là, la question dans ce tremblement de terre, est-ce qu'il y a vraiment un exceptionnalisme? Parce qu'on se posait la question, est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est le dollar qui fait l'exceptionnalisme? Est-ce que c'est l'exceptionnalisme qui fait le dollar? Et là, on en est rendu au point de se dire, mais est-ce qu'il y a même un exceptionnalisme? Puisque là, on trouve avec une fraction du prix qu'on a un code en open source qui permet de disrupter effectivement toute l'intelligence artificielle et finalement de se dire, mais en gros, pourquoi on paye cette prime aux actions?
Alors, la bonne réponse à ça, c'est que nous, on a essayé de faire tout ça. C'est que je dis, je ne sais pas si cet exceptionnalisme existe. Je ne sais pas s'il va disparaître.
Demeurer.
Mais par contre.
Mais il va y avoir une correction.
Eh bien, ça, c'est évident. Mais par contre, ce que je sais, c'est que tous les endroits où la Chine est maintenant dominante, ils font des vrais trucs, hein, des machines, outils, etc.
Sûr, ouais. Des trains,
il n'y a pas d'exceptionnalisme chinois, il y a un contre-exceptionnalisme chinois. Donc je me dis, là, je surpaye en connaissance de cause, puisque les Américains sont tellement plus intelligents que tout le monde.
Ouais,
et là, je sous-paye parce que les Chinois sont plus cons que tout le monde.
Ils sont des pieds.
Ils sont pas beaux.
Voilà.
Et donc je me dis, comme je suis un horrible financier, je me dis, j'ai une fâcheuse tendance à acheter ce qui est pas cher.
Bah oui, moi aussi, je préfère acheter ce qui est pas cher. Hein, avec les copines, c'est un peu ce qu'on cherche à faire toujours.
Voilà.
Trouver le petit tapissier qui va te faire le truc moins cher.
Ce qui se passe, et ça fait un petit moment qu'on vous parle des actions chinoises. Au début, on vous a parlé des obligations, puis on vous a parlé des actions chinoises, en vous disant qu'elles n'étaient pas chères, qu'elles avaient des très bons produits et tout.
Plus que jamais.
Plus que jamais, parce qu'en plus, ils seraient peut-être parmi les meilleurs aussi à faire des... Et ils sortent, je crois, plus d'ingénieurs dans tout ce qui est informatique, les Chinois, que tout le reste du monde combiné. Tous les ans. Donc, tu te dis, parmi tous ces gars-là, il y en a peut-être un ou deux qui vont avoir une idée de... Tu vois, c'est ce qui est passé, d'ailleurs.
Et tu vois, ce que je trouve de rigolo, c'est qu'il y a eu ce débat avec Altman, justement, au début, de dire, est-ce qu'on va coder en open source ou pas? Et puis, finalement, Musk est arrivé en râlant, il y a eu cette bataille entre les deux. Et là, c'est passé en open source. Alors, moi, je trouve ça intéressant pour moi, j'aime bien le côté encyclopédique comme ça, de se dire.
Et surtout que tout le monde peut intervenir.
Voilà.
C'est pas protégé par des brevets, c'est ouvert.
Je sais pas si t'as vu, attends. Et pendant ce temps-là, nous. On a lancé une IA qui s'appelle Lucie, je crois. Et le truc, on lui a demandé de faire, tu sais, des opérations genre 2 plus 3 parenthèses, 3 fois 6, fermer la parenthèse. Il n'est pas capable de faire ça. C'est-à-dire que tu sais que tu dois d'abord calculer la parenthèse et puis ensuite tu fais
le... Je sais qui l'a programmé. C'est le maire.
et je te jure, tu peux demander à l'IA comment je fais une omelette avec des œufs de vache et elle va te répondre.
Oui, parce que le problème avec l'IA, c'est qu'elle a un peu honte quand elle ne sait pas. Alors elle va.
Donc on a mis du pognon dans une IA qui est complètement grotesque. Enfin, ça fait penser
au
programme.
Par contre, je sais qu'il y a des gens dans l'IA, et en particulier la française, et en particulier dans le domaine de la défense, qui ont. Je suis rencontré d'ailleurs des gars très intéressants qui développent une IA. Qui est un peu comportemental, qui est un truc que personne n'a fait jusqu'ici. Donc, il y a des matheux en France qui sont...
Ils se plaignent beaucoup, moi, ceux que j'ai rencontrés, qu'on ne leur laisse pas le temps de coder.
Ouais.
Et on leur demande de coder très vite, et de sorte que...
Il faut faire des effets d'annonce, tu sais. Nous aussi, on fait une IA et tout et tout.
Oui, mais apparemment, si tu veux vraiment faire un truc avec... c'est ce qui fait la différence, il faut laisser le temps de coder un truc intelligent.
Alors nous, on travaille avec, vous savez, Gavcal, on a une équipe qui est à Cannes, où il y a des grands spécialistes de l'IA, on travaille avec eux. C'est pas évident, mais enfin, on arrive à des résultats quand même qui sont pas inintéressants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et si on continue à raisonner? Bon, une valeur comme... je vais essayer de vous donner quelques chiffres, là, si je les retrouve, parce que je suis pas le plus organisé. Alors, prenons une valeur même... Allez, comme Apple, hein. Bon, elle se vend à 35 fois les bénéfices. 35 fois, c'est-à-dire que c'est hors de prix, hein. Donc, il est probable que si cet exceptionnalisme se pète la gueule, enfin, comme concept, Apple va se vendre au même multiples que Huawei, que le concurrent chinois.
Je ne pense pas que cette correction du marché arrivera en une fois. Voilà, il va y avoir des dead card bouncing avec force. Et si tu veux, ça fait quoi ? Ça fait 4 ans qu'on surfe sur cet exceptionnalisme américain avec des valorisations qui s'envolent. Donc il va y avoir des corrections relativement brutales, mais par palier. Hein.
Mais ça va tomber par palier. Et puis il faut que vous sachiez quelque chose dans les marchés. C'est que ce qui est terrible dans les baisses, comme elles vont se produire, c'est ce que tu dis, dans les baisses, si elles se produisent, quand elles se produisent, c'est que ça remonte tout le temps. C'est-à-dire, je m'explique, ça baisse de 3, 4, boum, pam, 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 et puis hop, ça remonte de 5. Alors tu dis, c'est fini ? Et puis pas du tout, ça rebaisse de 3, 4, 5, donc...
Oui, parce qu'il y a des gens qui achètent le dip aussi.
Il y a des gens qui achètent le dip, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'en 87, quand il y avait eu le marché qui avait baissé de 23% en une journée, tu sais, pouf.
Puis, là, ça a été 17, Nvidia.
Là, c'était le marché dans son ensemble. C'est pas une seule valeur, ça arrive, 17 valeurs. Quand le marché avait baissé comme ça d'un seul coup, j'avais regardé après le mois d'octobre, ça s'était produit, eh bien, il y avait eu plus de jours en hausse que de jours en baisse en octobre. Et donc, mais les jours en hausse, t'étais en hausse d'1%, et les jours en baisse, t'étais en baisse de 4%. Donc c'est ça qui a de tuant dans une baisse, c'est que ça
le plus petit violon du monde.
Exactement. Donc il pend. Donc tu te dis bon ça a baissé beaucoup, puis ça remonte un petit peu, tu dis c'est fini, et puis pas du tout. Donc ce qui a de tuant dans les baisses, c'est la volatilité augmente de façon extraordinaire. À la place d'avoir le marché qui bouge de 1,5% par jour, t'as le marché qui se met à bouger dans les deux sens, de 2 ou 3% par jour. Et à ce moment-là, t'es là, tu te dis, bon, c'est notre remontée de 3%, est-ce que c'est le début d'une nouvelle hausse ? Donc, c'est ça le problème. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il est probable qu'un processus de baisse a été engagé sur les valeurs de technologie, mais ça ne veut pas dire que le reste du marché américain n'est pas bon. Et j'ai vu aujourd'hui, hier, par exemple, le Nasdaq a ramassé 3%, je crois que le Standard & Poor's est monté. Donc, il y a ça. Alors ça, c'est la première des choses, donc il risque d'avoir un changement qu'on appelle de leadership, tu sais, c'est-à-dire que le leader va changer dans le marché, c'est plus le même qui va courir devant, comment. Reste à savoir quel sera le prochain leader, mais ça c'est autre chose. La deuxième des choses qui me paraît évidente, c'est que depuis un an, comme on l'a signalé ici, le marché chinois, en une seule monnaie, dividende inclus, fait mieux que le marché américain. Tu vois, même avec ces 7 valeurs qu'il y avait, bon. Personne n'en a parlé, sauf nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si d'un seul coup, les gens ont l'impression que la Chine devient bonne dans tout ce qui est intelligence artificielle, en plus de ce qu'elle est déjà, les gens qui ont zéro en Chine vont se dire « mais j'en ai pas assez ». Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet de dégonflement aux États-Unis et un effet de gonflement en Chine, c'est le...
Logique, hein. Deux choses. Un, on va avoir droit aux suspects habituels qui vont nous expliquer que Taïwan est sur le coup d'être envahi, hein, parce qu'ils adorent, depuis le Washington Post au New York Post et tout ce que tu veux, depuis leur bureau.
Que la Chine va s'effondrer d'un jour ou l'autre, je ne sais pas pourquoi.
La Chine va s'effondrer d'un jour ou l'autre.
Oui, mais ça devient de moins en moins crédible.
Oui, et on est toujours quand même dans l'attente des droits de douane, tariffs.
Oui, mais t'es bien joli, les droits de douane, tarifs, mais si par exemple... Allez, on va faire une...
Un ennemi fort, c'est pas comme un ennemi faible. Tu ne peux pas le traiter
ensuite,
de la même façon.
Je suis bien persuadé que Trump et Xi ont déjà échangé longuement et qu'il n'y a toujours pas eu de droits de douane sur la Chine.
Ouais. Je pense que pour l'instant, il y a eu beaucoup de paroles verbales.
Non, mais on tape sur...
On tape sur la Colombie.
Et quand on est dans la cour de récréation et qu'on est le mâle dominant, il faut taper sur les plus petits. On ne va pas taper sur les types qui sont presque aussi forts que vous. Quoi. Donc on va taper sur le Canada, le
Mexique. Surtout quand tu viens d'arriver, ça fait mauvais genre.
Bon. Donc tu vas taper sur les plus petits. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que les États-Unis veulent se réindustrialiser. Hein.
Oui, bon, ça c'est très clair, c'est le message. Vous faites venir vos entreprises aux États-Unis.
Mais pour te réindustrialiser, tu as besoin de machines-outils. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'industrie de machines-outils aux États-Unis. Les machines-outils, elles sont faites par qui ? Les Chinois, les Japonais, les Allemands et les Italiens. C'est à peu près les 4 qui produisent les machines-outils. Et la moitié des machines-outils dans leur monde aujourd'hui est produite par les Chinois. Donc si tu veux te réindustrialiser,
Tu peux pas à des masses de
fashion. Où est-ce que tu vas acheter tes machines ?
Sans compter les fermes à panneaux solaires, sans
mais
compter
tout ça,
l'énergie.
Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les biens d'investissement, maintenant, aujourd'hui, sont produits en majorité. Les trains à grande vitesse, etc., c'est par la Chine. Donc, c'est pas une bonne idée de mettre des droits de douane sur des produits que tu vas acheter et dont tu as besoin.
Oui, non,
c'est pareil, c'est pas... Tu tires une balle dans le pied, une anthologie. Donc, tout ça me fait penser... Donc, on dit, il est possible que le... Maintenant, si tu es les États-Unis et que tu essayes de vendre des produits à la Chine, qu'est-ce que tu peux vendre ? Tu peux vendre de l'énergie et tu peux vendre de la bouffe. Mmh. Et les Chinois, ils sont d'accord pour acheter de l'énergie et de la bouffe à condition qu'elle ne soit pas trop chère. Et le truc le plus facile pour que l'énergie ne soit pas trop chère, c'est quand même de demander aux Chinois de réévaluer leur monnaie. Mais ils ne peuvent pas réévaluer leur monnaie tant qu'il y a le yen qui fait l'andouille.
Ah bah oui, on a un problème avec le yen, ça,
donc,
on en parle depuis suffisamment.
Donc il va falloir, donc, à mon avis, que si... Et,
il va falloir qu'il
Trump,
se... il va falloir qu'il
appeler,
le chope pour
vont
la...
Faire, vont appeler le Premier ministre japonais en lui disant, dites, tant que c'était Biden, ça va... Mais maintenant, il faudrait peut-être arrêter les bêtises. Il
faudrait peut-être jouer collectif.
Il faudrait peut-être jouer collectif, et donc vous allez monter avec le... Et ça, ça me paraît très logique, parce que si toute l'Asie voit ses monnaies monter, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le pouvoir d'achat des Asiatiques, la consommation va pouvoir augmenter, et qu'ils vont tous venir prendre l'avion ou acheter une maison aux États-Unis, etc. Donc si tu veux le... La prochaine grande vague de consommation dans le monde, ce ne sera plus les États-Unis, ce ne sera plus l'Europe, la pauvre. Ce sera le consommateur asiatique qui, d'un seul coup, va voir son pouvoir d'achat monter puisqu'il a ses monnaies qui montent.
On le voit déjà en Europe, on le voit terriblement. Quand on, y a qu'à voir, nos grands magasins, des choses comme le Printemps et les Galeries Lafayette sont devenus d'immenses duty free où tu vois des Chinois faire la queue pour des sacs Chanel en randonnion. Et tu n'as plus des boutiques où tu peux venir acheter des gants ou des écharpes. C'est devenu des zones de duty free. Hein.
C'est exactement ça. Donc, c'est ce que j'ai dit il y a déjà un certain temps. Il me semble que là, on va vers un contre-choc asiatique en 1998-99, quand l'Asie a sauté, là. Ce qui s'est passé, c'est que ces monnaies se sont écroulées et que nous, nos produits de luxe, on est allé les vendre là-bas. Mais eux, ils nous vendaient ils nous vendaient des tas de produits. C'est là que toute notre industrie est partie en Asie parce que c'était pas cher du tout, donc... Donc la base industrielle asiatique a fait de l'argent gros comme elle. Le consommateur, il en a pris un peu plein la tête. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire le mouvement inverse. Il faut que l'Asie, le consommateur asiatique, s'en mette plein les fouilles, que le producteur européen et américain gagne de l'argent gros comme lui, et que le consommateur européen, il en prenne plein la tête.
Alors, ce qui risque d'être un problème, cela dit, quand tu dis qu'il faut, par exemple, que le consommateur asiatique vienne consommer américain et ou européen, je me dis, nous, ce qui nous pend au nez, c'est l'insécurité. Et le fait que malgré tout le consommateur asiatique se dise ouais, mais enfin le modèle français c'est quand même cracra, j'ai pas très envie d'aller là,
alors,
et ainsi de suite.
En Angleterre c'est guère mieux, donc ils iront peut-être vers des pays comme
l'Italie,
l'Espagne, Portugal.
Oui, mais alors ce qui fait que nous ça va pas aider notre balance commerciale d'autant.
Ah ben nous on est dans une catégorie à part, nous on a tout faux. Et en plus on comprend rien.
Il y a qu'à voir le Louvre dont on parlait cette semaine parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je ne comprends pas. J'y suis allée il y a 2 ans avec les filles pour la dernière fois. Il y avait des banquettes Louis XV complètement éventrées, tu sais, en brocart, éventrées par les murs. Je me suis dit, mais ce musée n'est pas tenu. Et force est de constater, le musée n'est pas tenu et il
mais
n'arrive pas à faire...
Mais c'est le musée le plus visité au monde et...
Est-ce que je comprends pas, tu vas au Metropolitan Museum à New York, tu peux manger par terre, tellement c'est propre, il y a des gardes partout.
Oui,
ils ont fait un truc très intelligent.
C'est privé,
mais alors c'est qu'ils ont des patrons
oui,
et qui payent, donc il y a un mécénat privé, et au-delà de ça, tu peux, en tant que personne à la retraite, venir être guide,
aider
un ou deux jours par semaine, ce qui te permet de sortir de ta petite routine. Si
tu vas faire visiter le musée.
Et tu vas faire, donc tu vois des personnes, par exemple, qui vont être spécialisées sur les Amérindiens, et qui viennent deux fois par semaine comme...
Volontairement, non, mais ça, donc, le problème du Louvre,
c'est qu'il est dans, micro,
il est dans une position de monopole absolument extraordinaire. Et qu'il est géré par l'État. Par exemple, le Louvre, je crois, il a, pour deux œuvres qui sont exposées, il y en a 10 qui n'en voient jamais. Ben, dans un truc normal, ce que tu ferais, c'est que tu organiserais une espèce de vente de temps en temps des surplus du Louvre, que tu vendrais, et puis tu irais acheter des œuvres modernes ou des œuvres qui complètent mieux tes collections par ailleurs. Donc tu aurais une respiration des œuvres là. Les 8 œuvres sur 10 que personne ne voit jamais, elles restent enfermées. Probablement, elles se font voler de temps en temps par des indélicats. Mais je veux dire par là, c'est le Louvre, c'est l'exemple même de la façon dont la France est gérée et dont elle ne devrait pas être gérée. C'est-à-dire qu'on en a fait un truc qui est complètement étatisé, où rien ne marche, il n'y a aucune autorité. Et puis vous voyez les gars dans les... Bref, on ne va pas parler du jeu pendant des heures, mais voilà ce que je veux dire. C'est que...
Alors, j'ai une question quand même, parce qu'elle risque de se poser. Est-ce que tu penses qu'à ce stade, en tout cas pour les États-Unis, l'IA aurait atteint le stade de la dot-com en termes boursiers ?
Ben, ce n'est pas du tout impossible, parce que si tu regardes les chiffres aujourd'hui des valorisations, tu as des valorisations qui sont complètement
donc
insensées.
On va rappeler ce qui s'est passé sur la dot-com.
C'est-à-dire en l'espace
À la fin des années 90, il y a eu des centaines de plateformes de commerce électronique qui étaient financées par des sociétés de capitalisation enthousiaste. Et du jour au lendemain, pratiquement, ça a été un bouillon.
Les gens ont perdu entre 90 et 100% de leur fric. Il y a des tas de sociétés qui ont fermé. Alors là, je ne sais pas si ça va être la même chose, parce que des gens comme Amazon ou Microsoft sont très... dont des reins très très solides et gagnent beaucoup d'argent. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'hypothèse qu'on va arriver à un monopole qui va permettre de gagner sans prendre de risques, c'est cette hypothèse-là qui va être détruite. Et c'est cette hypothèse qui sous-tendait les 40 fois les bénéfices et 50 fois les bénéfices. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'en tout état de cause, ces grandes valeurs vont retomber à un multiple normal qui serait entre 16 et 22, quoi.
Mais cela dit, je vais te dire, je trouve ça bien pour l'humain, parce que je pense, je pense que quand les Américains étaient arrivés dans une position où, pardon, ils se la pétaient un peu trop.
Dubris.
Et quand on se retrouve dans ces sociétés Dubris, en général, bon, déjà, il y a des capitalisations absolument stupides, qui ne correspondent plus à rien, que moi, je trouve toujours gênantes intellectuellement. Et ensuite, en général, tu ne produis plus, parce que je pense que, quelque part, nécessité fait loi dans la
Si tu peux gagner 100 milliards en créant un software, etc., tu vas pas t'amuser à faire des boulons, quoi.
Il y a des trucs aussi. Bon, il va falloir que le marché se purge un petit peu sur les fartcoins. Hein.
Là, il y a tout ce qui est fausse monnaie. Vous avez, alors, encore une fois, on revient à la même chose. Ce qu'on a dit souvent, dans le côté des coins et tout, vous avez le bitcoin. Et vous avez les autres. Les autres, je ne vois pas très bien pourquoi ça vaut quelque chose, mais ça, on peut en discuter. Donc, il est certain qu'à ce moment-là, tout va se péter la gueule et qu'on sera... Toutes les plateformes se sont pétées la gueule en 2000. Celle qui a réémergé de l'autre côté, c'était Amazon. Parce que, c'est elle qui a réémergé, parce que c'était sans doute la meilleure. Et donc là, on va avoir un pétage de gueule. Et si je devais faire un pari, je dirais ce qui réémergera de l'autre côté, c'est le Bitcoin. Et puis
alors,
tout le reste va être détruit.
Alors moi, j'ai eu un problème récemment avec Bitcoin que je te soumets, qui est le suivant. Moi, j'ai connu le Bitcoin tout au début du mandat de François Hollande. Mm-hmm. C'était à l'époque sur les plateformes, il valait pas grand-chose, il valait deux pizzas. Hein. Mm-hmm. Et je l'ai connu à l'époque sur les plateformes de Liborg, parce que c'était des libertariens... Voilà, et je me souviens, je me suis dit, est-ce que j'essaye ? Je ne sais pas, puis c'était très compliqué à l'époque, hein. Fallait vraiment... Bon. Et ce qui m'a attiré au début dans cette idée, c'était le côté libertarien.
Bien
c'était
sûr.
De me dire, c'est hors système. Aujourd'hui, je trouve des gens qui viennent me dire, ah mais c'est formidable, on va créer une réserve de Bitcoin à la BCE et qui pousse, comme des ânes dans cette direction parce que, évidemment, ça va augmenter la capitalisation du dit Bitcoin. Alors, tu comprends, ça me pose un souci parce que on n'est pas là.
T'inquiète pas, je vais t'arrêter ici, ça va pas se passer parce qu'à partir du moment où le Bitcoin prend à 50%, la BCE, elle va dire, mais ça va pas, non, je vais pas acheter cette saloperie. Donc, le truc de l'État s'y met, c'est parce que ça monte depuis des années. Mais le jour où ça perd 50%, tu imagines un inspecteur des finances recommandant d'acheter des bitcoins.
Oui, mais c'est eux...
C'est les gars qui le défendent. Mais les gars qui le défendent sont les pires défenseurs du bitcoin.
Mais c'est eux, voilà, c'est eux. Je leur dis, mais vous ne voyez pas que vous ne pouvez pas à la fois me dire que vous êtes John Galt et que vous voulez que la BCE en achète, les gars. Structurellement, vous voyez bien...
Non, parce que comme ils sont en position... Tu sais, quand tu es en position longue sur un truc, tu tombes amoureux de ton truc. C'est pour ça que c'est pas que vous l'aimez.
Ils en perdent toute rationalité et toute capacité de dialogue. Quelle est la différence entre vous et un vendeur Rank Xerox? Vous êtes un vendeur Rank Xerox.
Ils le sont.
Vous poussez votre produit au travers de la porte.
Aussi bien, ils iront pousser le Fartcoin ou ils iront pousser...
Je ne peux pas respecter ça.
Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin est faux. Ça veut dire qu'il a des tas de défenseurs qui ne comprennent pas.
Oui,
mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais truc.
Oui, mais je n'ai pas envie de jouer avec eux dans ces cas-là.
Non, mais tu n'as pas besoin de jouer avec eux parce que... Le Bitcoin ne sait pas que tu joues avec lui. La question que tu dois te poser, est-ce que c'est un bon investissement qui fait sens ou qui ne fait pas sens? Maintenant, ce que les autres en pensent...
Oui, mais si justement, ils le poussent pour aller vers la BCE, je me dis, ils courent à leur perte, donc je ne vais pas aller jouer avec eux.
Mais la BCE ne va pas le faire.
Oui, mais imaginons sur un malentendu qu'elle le fasse, c'est sa mort. Imaginons pour une raison X, Y, Z.
Non, ça veut dire que...
Il y aura
des bitcoins qui sont dans un endroit où ils ne devraient pas être, mais à ce moment-là, ils s'en iront rapidement. Avec les déficits de l'Europe, il faudra les vendre, des bitcoins.
Ou même si le Trump le fait, une réserve de bitcoins.
Mais Trump, il peut faire des conneries comme les autres.
Bien sûr.
Je veux dire, quand vous êtes un pouvoir monétaire, achetez la monnaie du pays d'à côté, enfin, la monnaie... virtuel, ça veut rien dire. Donc le fait que le Bitcoin soit soutenu par des gens qui comprennent pas ce qu'ils ont, ça me gêne en rien. C'est juste celui qui a fait le Bitcoin était un génie. Ceux qui l'utilisent, voilà. Donc la troisième et pour moi la plus importante question. Bon, le marché, très bien, j'ai compris. Ce qui m'embête le plus, c'est le dollar. Parce qu'une grosse partie de la force du dollar depuis 2-3 ans, c'était que les gens gagnaient des dollars en vendant des machines à laver aux États-Unis, allez, et à la place de les réinvestir dans leur pays pour faire des machines à laver, ils laissaient les dollars aux États-Unis et ils achetaient de l'intelligence artificielle, tu vois, ils achetaient... Donc, tu avais une espèce de cercle de balance commerciale déficitaire... qui crée un excédent de dollars aux États-Unis, ça ne retournait pas en Allemagne ou en Turquie, comme ça aurait dû, ça restait aux États-Unis. Puis de là, comme ils ne savaient pas trop quoi en faire, ils allaient acheter...
Du Nvidia et du Microsoft.
Et en ce faisant, ça veut dire que le dollar était anormalement fort, puisqu'on ne le vendait pas, puisque... Donc, le trio infernal, depuis 3, 4, 5 ans, c'était le dollar... L'or, parce que les gens achetaient souvent de l'or pour balancer leur position, et Nvidia, si j'ose dire. Tu vois, c'était l'espèce de trio infernal. Ils montaient ensemble. Ils ont monté ensemble, très bien. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont baisser ensemble?
L'or va être décorrélé de ça, je ne vois pas pourquoi.
Parce que les gens ont acheté beaucoup d'or, par exemple.
Au contraire, moi, l'or pourrait...
La Banque nationale suisse, d'après ce que je comprends, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, bon, j'ai X milliards de dollars à investir, je mets 50% en
action
et 50% en or. Et ça leur faisait un portefeuille qui ne bougeait pas, qui montait tranquillement, qui ne bougeait pas. Donc il y a eu, comme hedge, les gens intelligents comme hedge contre cette folie, ils se sont dit, je vais participer à la folie, mais je vais prendre un hedge, et c'est l'or. Mmh. Donc l'or est aussi beaucoup monté. Donc s'ils ne participent plus à la folie, est-ce que l'or va baisser ou pas? J'en sais foutre rien.
Mais peut-être au contraire, en se disant, il y a une folie, j'achète encore plus d'or.
Non, mais quand ça se pète la gueule, tu sais, les gens, ils vendent ce qu'ils peuvent. S'ils ne peuvent plus vendre Nvidia parce qu'il n'y a plus de marché et qu'ils ont un appel sur marge, ils vont vendre d'or.
Ils vont vendre ce qu'ils peuvent.
Je me demande combien de ces achats Nvidia, d'or, etc. ont été faits sur de l'argent emprunté. Et par exemple, au Japon.
Ah oui, parce qu'il y a un gros carry trade aussi.
Il y a un gros carry trade, donc est-ce qu'il y a des gens qui empruntaient des yens pour acheter des Nvidia et de l'or?
Ah bah oui, ça...
Et j'en sais faudrait rien, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut avoir un coup de tabac sur l'or qui sera pas triste. Hein.
Aussi.
Mais qui sera faux. Il n'y a pas de raison de vendre l'or, mais il y a une position technique
si
qui est
alarmante. Si jamais ça arrive sur notre portefeuille, sachant qu'on a 17% en or, bon, de toute façon, nous, on est sur un temps long, il faudra juste serrer les dents un petit peu.
Mais on en achètera peut-être un petit peu pendant qu'il baisse en vendant autre chose, mais, parce que si la bourse de chinoise commence à monter, on pourra vendre un peu de bourse chinoise pour acheter de l'or.
Et encore une fois, on aimerait bien prendre notre marche sur le Japon, mais il faudrait qu'il devienne sérieux un
petit
peu.
Il faudrait qu'il devienne sérieux un peu, mais là, ça rend la probabilité d'une... parce que les États-Unis vont se dire, si je suis plus concurrentiel sur l'intelligence artificielle, il faut que je puisse vendre quelques bagnoles aux États-Unis qui soient faites aux États-Unis et le Japon me l'empêche. Donc là, les Américains vont peut-être s'exciter sur le yen, quoi. Mmh. Donc je veux dire, par là, on assiste à une espèce de basculement. Tu vois, c'est de temps en temps, c'est comme quand les icebergs, tu sais, de temps en temps, d'un seul coup, ils sont plus en équilibre et pouf, ils tombent comme ça. Donc je crois qu'on est. Je peux me tromper, bien sûr, mais je crois qu'on est en train d'arriver.
Ton instinct te dit qu'il pourrait faire le basculon.
On pourrait avoir une bascule en ce moment. Et je me dis, dans les bascules, les trois qui ont le plus gagné dans le précédent iceberg, c'était l'or, c'était Nvidia et c'était le dollar. Il y a peut-être une relation entre les trois, que les trois avaient emprunté du yen pour acheter le dollar.
J'espère qu'ils n'ont pas fait ça, mon Dieu.
Tu as une connerie à faire. C'est une connerie à faire,
ça va être fatigant.
Non, mais ça va être fatigant, mais à ce moment-là, nous, dans ce cas-là, on a le yen qui va partir à la hausse comme une fusée.
Oui.
Donc, on opérera sur l'or, on regardera sur le yen.
C'est juste que je suis fatigué de le regarder à l'avance, quoi.
Non, mais c'est pour ça que ce métier est fatigant, c'est que tu dois tout le temps te dire, bon, il y a une connerie à faire. Et de temps en temps, tu le fais choper.
C'est comme un enfant de 2 ans que tu laisses tout seul sans surveillance dans un appartement. C'est où sont les ciseaux? Ça y est, il a trouvé le tube de rouge à lèvres. Qu'est-ce qu'il a fait avec mon mascara? Voilà. Ça y est, il a ouvert l'eau. Me dis pas qu'il a trouvé la casserole.
Mais c'est des marchés financiers, c'est ça. C'est de dire quelle est la prochaine année.
Ça y est, il est en train de couper les cheveux de sa sœur.
Quand vous regardez, avec ce que je disais au début, c'est que vous regardez le marché financier à court terme comme ça, ils font que des bêtises sans arrêt. C'est sûr. Puis vous les regardez. Sur 25-30 ans, il n'y a pas une ânerie. C'est exactement le contraire des hommes politiques qui font que des trucs intelligents et 25 ans après, on arrive à des résultats désastreux. Donc, on voit bien que ce qui marche bien dans les marchés financiers, c'est cette capacité à prendre des claques à court terme dans tous les sens parce que finalement, ça finit par nettoyer le système de tous les problèmes. Mais c'est tuant. Parce qu'on aimerait que soit la vie soit un long fleuve tranquille, où on gagne de l'argent ensemble. Mais la réalité, c'est que les marchés financiers, c'est une machine infernale, quoi. Et qu'elle se nettoie tout le temps et que c'est fatigant. Mais voilà, c'est pour ça que j'adore ça, c'est qu'on a toujours l'air idiot.
En fait,
j'ai eu des radios toute ma vie, moi. Ça me tue.
Non, mais c'est d'un certain côté, tu ouvres chaque jour en disant que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et là, bon, on est donc le 27. Je pense qu'on ouvre une petite période de. On va bien voir parce que c'est toujours pareil quand il y a des baisses comme ça. Tu le disais, on vend ce qu'on peut vendre, ce qui veut dire que on peut aussi ouvrir des portes devant l'enfer, du style à la Liman ou des choses comme ça, parce que
mais
tout
encore,
à coup il y a un emballement sur quelque chose.
Il y a un emballement et surtout ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, si par hasard on a
s'il y a eu des positions à découvert qui ont été prises.
Absolument, il peut se passer des trucs. Mais surtout, c'est là qu'il peut se produire des occasions d'achat incroyables.
Ah oui.
Parce que
si tu as de la liquidité.
Si tu as ton portefeuille qui est bien liquide. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans l'Université de l'Épargne, c'est d'avoir un portefeuille qui, dans à peu près toutes les possibilités, peut être liquidé en une journée. Donc, si votre portefeuille, en principe, il est liquidable dans la journée. Mais s'il y a des gars comme... quand des trucs qu'il faut 35 ans pour les liquider, ça va être difficile. Hein.
Est-ce que... Alors, j'ai entendu Trump, hier, dans une conférence de presse, dire qu'il allait demander à la Fed de baisser les taux.
Bon, ça, il peut toujours demander ce qu'il veut. En principe, elle est indépendante.
Do you think Mr. Powell will listen to you? He said, I will make a very strong case.
Mais je ne sais pas s'il a raison. Encore
alors,
une fois...
Alors, est-ce que... Alors, j'y ai réfléchi et je me suis dit, si malgré tout il baisse les taux, en tout cas pendant un moment, parce que s'il avait monté les taux...
Ils les ont montés pour l'instant.
Ils les ont montés.
Tu sais que les taux sur le 10 ans sont pas loin de 4%, donc...
Bon, notre problème, nous, c'est le roulement de notre dette française. Si les taux continuent de monter, on va plus avoir de capitaux, parce que tout le monde va rester aux États-Unis.
Tout le monde va rester... Oui, mais alors aussi, je sais pas, si... La réalité, c'est que les taux d'intérêt, c'est une bête très compliquée. Et donc, il y a deux deux composantes toujours, mais sont, c'est l'inflation et la rentabilité du capital investi, bon, en termes réels. Et tous les travaux que j'ai faits montrent que les taux d'intérêt sur le 10 ans doivent... C'est la golden rule de... Comment il s'appelle le prix Nobel français d'économie? Bref.
Je l'ai. Alphonse Allais.
Non, c'était pas Alphonse Allais, c'était Maurice Allais.
Maurice Allais.
Maurice Allais. Oui, Alphonse Allais, c'était Maurice.
Oui, mais tu vois que c'est rangé au bon endroit.
C'était Allais, c'est ça.
Le nombre de fois que je suis allé rue Galilée quand je voulais aller rue Copernic inversement.
Oui, donc Maurice Allais. C'est la règle de... C'est-à-dire que les taux d'intérêt sur le long terme, et je peux expliquer pourquoi, doivent toujours être à peu près au niveau de la croissance nominale du PIB. Donc aujourd'hui, la croissance nominale du PIB est à peu près à 6, et les taux d'intérêt sont à 4. Donc, si les taux d'intérêt sont trop bas, ça fait des mauvaises allocations de capital, etc. Bon. Donc, ça veut
comme
dire
qu'il
faudrait, il faudrait que pendant mon tracisme. Mais maintenant, si Trump prend toutes les mesures anti-gaspillage étatique, etc.
Sachant qu'il a été élu pour combattre l'inflation.
Oui, non, il a été élu aussi pour faire reculer l'État. Hein. C'est menace, etc. Il n'y a pas que l'inflation, parce que. Bon, on pas ça. Mais imaginons que. Ils réussissent de façon, en faisant baisser le gaspillage, à faire baisser l'inflation de 3 où elle est à, allez, à 1,5.
Oui.
Ben, à ce moment-là, les taux d'intérêt aujourd'hui seraient leur vrai prix.
Oui.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les taux d'intérêt, ça n'est pas déterminé que par l'inflation, mais c'est déterminé aussi par la rentabilité du capital investi.
Oui.
Si M. Trump enlève toutes les réglementations imbéciles qui existent partout, eh bien, la rentabilité du capital investi va monter et l'inflation va baisser. Donc, il y aura peut-être une baisse du PIB nominal et une hausse du PIB réel. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que fait la France. Donc, le problème de la France, c'est pas qu'il y ait de l'inflation, il n'y en a pas des masses, mais c'est que la rentabilité du capital investi est absolument monstrueuse. Donc, par exemple, la critique que j'ai faite de M. Bereu, du roi de Gallo, là, avec ce brave Berkoff, c'est que il dit, M. Villeroy de Gallo dit, les Européens investissent 300 milliards de dollars aux États-Unis par an, ce qui est un vrai scandale, on ferait mieux les garder pour nous. Mais ils investissent pourquoi? Parce que la rentabilité du capital investi aux États-Unis est plus forte. Donc si tu demandes aux Européens, ça veut dire que tu demandes de faire baisser leurs revenus pour plaire à M. Villeroy de Gallo. Mais ils ont parfaitement le droit de mettre leur capital où ils veulent. Si M. Villeroy de Gallo veut que la rentabilité et que les capitaux soient investis en Europe, il a qu'à faire une rentabilité plus forte en Europe, et à ce moment-là, ils viendront. Donc, ils prennent toujours le problème à l'envers. Ils disent, on a une rentabilité faible parce que les capitaux nous quittent. Mais non, les capitaux nous quittent parce que vous avez une rentabilité faible.
Ça paraît tellement évident.
Mais non, ils disent, si on avait les capitaux, la rentabilité monterait. Mais on l'a bien vu, ça fait 40 ans qu'ils nous le disent et que ça ne marche jamais. Donc,
jusqu'à ce qu'ils capturent le capital.
Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que dans les grands... déséquilibre qui était là à la fin de l'année dernière. La sous-évaluation de la bourse chinoise, à mon avis, ça risque de se corriger. Le yen et le yuan, ça va monter, donc ça, je suis assez tranquille. Il n'est pas impossible qu'on ait une très bonne bourse de New York, alors même que les indices baissent parce que les 9 valeurs se dégonflent et que le reste du marché fasse très bien. Les sociétés européennes qui sont pas trop mal gérées vont s'en sortir, mais je vois toujours pas la moindre solution pour les problèmes budgétaires de la France ou des pays comme ça. Donc, je me dis, le portefeuille, il peut continuer à avoir Kirill Schneider qui a ramassé une gamelle hier parce qu'elle est dans l'intelligence artificielle, donc on a tout vendu. C'est bête, parce que c'était très belle valeur, achetez-en. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on reste dans la même configuration du seul endroit dans le monde qui comprend rien, qui est l'Europe. Donc c'est l'endroit, il ne faut pas avoir de contrat. Tu peux avoir des actions, tu peux avoir de la propriété, mais tu ne peux pas avoir autre chose que ça. Quoi. Parce que sinon,
donc en tout cas, là, si dans les semaines qui arrivent, il y a une correction sur l'or, ne vous en faites pas, commencez pas à tout vendre. Hein. Soyez quand même serein.
Passera probablement, s'il y a une correction sur l'or, avec une hausse du yen aussi. Donc pour ceux qui ont du yen et de l'or, ça sera...
Mais en tous les cas, il va y avoir des corrections. On n'est pas trop, nous, sur les valeurs...
D'abord, on n'a pas été du tout, mais surtout, le portefeuille qu'on a bâti, en principe, c'est là qu'il devrait faire preuve de toute sa
souplesse et sa félinité.
Voilà. Il sera tout à fait capable de résister à tout ça. Mais
voilà.
Donc, il ne faut pas paniquer, mais on a eu... une bulle.
Ne m'appelez pas parce que Siemens a perdu 10% comme vous l'avez fait hier.
Oui, mais c'est normal.
Voilà.
C'est normal. Et encore une fois, dans la méthode de gestion qu'on préconise, si Siemens a perdu 10% et que vous en avez, ben vous allez vous retrouver en dessous du niveau où donc vous devriez...
Vous en rachetez.
Vous devrez racheter en vendant un petit peu d'or, par exemple. Voilà. Et lui est monté, paf. Et donc, ouais, c'est le système, c'est justement de profiter...
Des opportunités.
De ces à-coups qui n'ont pas de raison d'être.
Voilà. Et souvenez-vous toujours que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu.
Oui, enfin ça, c'est...
Oui, mais si tu n'as pas besoin de... Écoute, nous, on est dans un temps long
non, mais
de préparation
bien, mais si tu
de
vas retraite. Si tu vas à ta banque en demandant, je veux lever de l'argent sur mon portefeuille, je n'ai pas perdu, mais en fait...
Oui, non, mais les banques...
Donc ça, c'est un truc... Le prix du marché, c'est le prix du marché, donc s'il est en dessus, vous avez perdu, vous n'avez pas réalisé la perte, ce qui n'est pas la même chose. Hein. Mais vous avez perdu. Moi, j'ai des tas de trucs sur lesquels j'ai perdu. J'ai beau expliquer à tout le monde que j'ai pas perdu, si j'ai perdu.
Et tu as remarqué comme on se souvient beaucoup plus longtemps des choses qu'on a perdues que des choses qu'on a gagnées.
Ça c'est vrai ça.
C'est toujours pareil, tu perds un billet de 500 balles, tu t'en souviens toute ta vie.
Ah oui absolument. Non mais ça le code, il y a l'argent physique et il y a l'argent théorique, c'est pas du tout pareil.
Oui mais même l'argent théorique quand tu le perds c'est...
Oh moi quand je prends des claques je me dis bon... En bourse, hein, je veux dire. Ouais. Mais si je te dis, si je perds un billet de 50 euros...
T'en vois pas la fin de la journée.
Je me dis, mais qu'est-ce que j'en ai foutu? Je cherche dans tous mes pantalons. Donc...
Et jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'en fait, tu l'as dépensé petit à petit dans la journée. Tu sais,
oui,
c'est tout
fou,
ton portefeuille et tu te dis, mais je comprends pas, j'ai sorti de l'argent ce matin. Puis tu dis, ah oui, mais j'ai pris un café. Ah oui, mais j'ai acheté un magazine. Ah oui, mais finalement, j'ai...
Et puis à la fin de la journée,
ah bah non, on m'a pas volé, en fait.
Exactement. Donc voilà, on arrive peut-être à un de ces tournants qui se passent dans les marchés financiers. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, depuis la sortie de ChatGPT, on était dans un monde où tout allait être intelligence artificielle. Et moi j'ai toujours dit que le problème dans la vie, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était la connerie naturelle, et ça il y en a beaucoup plus. Donc on va peut-être passer d'un monde dominé par l'intelligence artificielle à un monde à nouveau dominé par la connerie naturelle, et je suis dans un état de bonheur total quand même.
Bon, en tous les cas, c'était très excitant à regarder hier. Et moi, ça m'a bien amusé, cette histoire de DeepSeek. On va voir, dont on n'avait pas entendu parler 2 jours avant. Hein,
mais non, on ne savait même pas qu'elle existait.
Voilà, et d'un coup, on a eu un petit moment Spoutnik, là. Mm-hmm. Spoutnik moment, de
bip,
se dire...
Bip.
Voilà, de dire, alors, c'est les Chinois qui passent devant. Alors voilà. Et ça fait rigoler, quoi. C'est, surtout que les États-Unis étaient là... Et ça fait toujours marrer quand c'est le petit, le pelé, le tondu qui passe devant. Malgré tout, on a un moment de... Comment il s'appelait ce joueur de tennis, Chang?
Chang, oui, qui avait battu, qui avait gagné un tournoi du Grand Chelem.
Un tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, avec tout le public qui était derrière. Il était arrivé, tout... C'était Lendl ou c'était Björk? Je ne sais plus qui l'avait joué.
Non, personne n'a battu Björk. Très peu de gens ont battu Björk.
Ça devait être Lendl. Enfin, c'était un Suédois grand, bien bâti.
Je crois que c'était Lendl.
Qui n'était pas le champion suédois avec...
Non, il était tchèque.
Tchèque, oui, mais enfin, c'était le type... Tu avais l'impression que...
Il n'était pas rigolo.
Un avion venait de s'écraser sur ses pompes le matin même, quoi,
oui,
à chaque fois.
Il était toujours très triste.
Ouais. Il était...
Voilà. Bah, écoutez, on a fait ça, donc on arrive à un moment important.
C'est le Roger Gicquel du tennis.
Oui. C'était... Donc, voilà, c'est... On est content. Ça devient intéressant à nouveau. Il va y avoir des gens qui vont perdre beaucoup d'argent, qui en ont déjà perdu. Mmh. Et donc, cette espèce de mécanisme entre de l'intelligence artificielle que les États-Unis allaient monopoliser, ben ça vient de voler en éclats. Boum. Conséquence, on verra.
Écoutez, on va suivre ça de près. En tous les cas, on voulait vous en parler parce que c'était un de ces moments de cristallisation des marchés. Donc, ça nous a bien amusés. Et écoutez, on reste en ligne pour de plus amples informations. N'hésitez pas à poser vos questions. Parlez-en autour de vous. Mettez-nous des pouces parce qu'on va bientôt passer les 400 000 sur notre chaîne. Donc, on est très contents. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.